Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marilyn Hérault.
9h02 sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver ce matin et vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler au 0826-300-300 et nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On vous en remercie vraiment, sincèrement, de votre fidélité. Dans la prochaine demi-heure, les événements qui ont marqué 2021, c'est Adeline Divoux qui reviendra sur le séisme en Haïti. Et puis aussi, restez avec nous parce qu'avec notre chef du jour, on va vous faire gagner, et le chef va vous faire gagner un cadeau d'exception, une bûche épi moisson 2021 en édition limitée. Si je vous dis Philippe, crémeux au croissant, brioche perdu, caramel de blé grillé, croustillant au feuilletage, mousse de pain grillé et vanille. Voilà, c'est le cadeau.
Amenez-moi le couteau, la fourchette et l'assiette qui vont bien.
Ce sera pour le gagnant, notre auditeur qui gagnera ça. Mais pour le moment, Sud Radio, il est 9h03, c'est l'heure de démarrer les grands débats du matin. Et la crise de la pandémie du Covid n'a pas fait que des malheureux. Durant cette pandémie, le nombre de milliardaires français a augmenté 109 en 2021 contre 95 en 2020 et 51 en 2011. On a constaté des hausses records de la bourse. La crise sanitaire n'a-t-elle profité qu'aux riches? C'est la question qu'on pose ce matin à nos trois invités. Didier Testot, tout d'abord, économiste, fondateur de la Bourse et la Vie, TV Testot, chroniqueur aussi sur Sud Radio. Pascal Delima, chef économiste et directeur innovation et métier de demain chez Harwell Management. Et Nicolas Orsois, docteur en sciences économiques. Bonjour messieurs, bienvenue.
Bonjour messieurs. Donc on parle, alors je vais donner quelques chiffres supplémentaires, on parle de crise Covid. Le seuil des 7000 points avait été franchi en novembre, c'était un record historique, et le CAC 40 a clôturé hier soir un record historique de clôture de 7181 points. Avant 2021, le record datait de 21 ans, l'époque de la bulle Internet qui avait fait monter toutes les bourses de la planète depuis le 1er janvier 2021, donc 363 jours, le CAC 40 a augmenté de 25%. Didier Testot, on va faire un tour de table avec nos trois invités. Comment expliquer ce plus haut historique alors que théoriquement, mais entre la théorie et la pratique, parfois il y a un monde, la crise Covid n'est pas terminée.
Oui, bonjour à tous, bonjour Philippe. Alors je précise, je ne suis pas économiste, mais fondateur de la Bourse et la Vie TV, et ça fait 32 ans sur la Bourse, on pourrait dire à peu près ces jours-ci. Alors 32 ans, ça fait quelques crises, quelques buts financières, effectivement, dont celle des années 2000, qui ressemble d'ailleurs assez à celle qu'on vit aujourd'hui, puisque finalement, quand on regarde un peu de près, quand on dit la Bourse, il faut préciser un peu les choses. Ce sont les indices boursiers, effectivement, vous avez mentionné le CAC 40, on peut parler effectivement du Dow Jones ou du S&P 500 qui, je crois, a connu cette année plus de 65 plus hauts annuels. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça fait depuis plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de ce type de progression. Mais quand on regarde aux États-Unis, les principales valeurs qui ont profité de cette effectivement hausse des marchés financiers, ce sont les valeurs de techno. Les valeurs, les Apple, les Microsoft, les Amazon et les autres, et ce sont d'abord elles, donc les investisseurs se concentraient sur des valeurs qui pouvaient justement, peut-être pour une partie d'entre elles en tout cas, c'était leur avis, bénéficier des transformations que nous vivons, les transformations digitales. Regardez, nous sommes aujourd'hui tous les cinq, nous sommes à distance. Nous pouvons faire ça. Il y a quelques années, ça aurait été un peu compliqué. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Donc, il y a d'abord ces sujets-là. Et puis, il faut rappeler une chose aussi, c'est que la bourse, ce n'est pas toute l'économie. La bourse, c'est une partie de l'économie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Donc, on ne peut
Japon,
pas…
Ouais.
Quand on dit, exactement, au Japon, mais ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse, donc des entreprises qu'on connaît bien, emblématiques, mais toutes ne sont pas cotées. Donc, l'économie va bien, la bourse va bien, c'est la logique, normalement, c'est-à-dire que la bourse anticipe ce qui devrait se passer sur les 6 mois. Elle peut se poser des questions sur les variants, sur la reprise économique. Est-ce que ça ne va pas effectivement baisser dans… Mais je dirais, c'est d'abord ça. Donc, il faut expliquer que ces investissements-là ont été concentrés.
Alors justement, on va en parler. Pascal Delima, comment expliquez-vous ce plus haut historique? D'ailleurs, Didier Testot a dit un mot « bulle ». Est-ce que ce ne serait pas, par hasard, une bulle spéculative?
Bonjour à tous, bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour.
Je dirais en fait qu'il y a aujourd'hui dans l'économie une relation très, très nette entre la question du virus et donc la question de la pandémie, la question médicale, et le lien qu'il existe entre cette question et les déficits et la dette et l'économie. Donc, je verrai un chaînon à quatre éléments, connexion. Très simplement. Les virus, le déficit, la dette et l'économie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les marchés financiers ont intégrer voilà, la question d'un Omicron finalement à faible gravité et que par conséquent, on estime que le quoi qu'il en coûte, de toute façon, s'il y a un problème, sera toujours là et que par conséquent, la dette, s'il y a un problème, pourra encore augmenter et que les marchés financiers n'ont plus peur de tout cela finalement parce que aujourd'hui tout est bien intégré. Aujourd'hui, l'économie s'est adaptée. Il y a eu 5 vagues précédentes. D'ailleurs, la 5e n'est pas encore terminée, soit dit en passant. Et que par conséquent, les processus organisationnels, le télétravail, la réorganisation du travail est aujourd'hui extrêmement bien entamée et de mieux en mieux maîtrisée, si l'on peut dire. Donc, le premier élément de réponse, je dirais, c'est que ce ne serait pas vraiment une bulle, mais plutôt une acceptation d'une situation apaisée. Maintenant, comme partout, je dirais, et comme en économie, il y a toujours un tout petit peu de nuance à apporter à cela et une antithèse, c'est que les niveaux de dette privée et de dette publique sont quand même extrêmement importants.
Très élevés, au record aussi.
Tout à fait. Et que par conséquent, voilà, jusqu'où va aller cette sérénité? On a aussi des taux de croissance, donc ça c'est le dernier élément du chaînon, hein, qui sont importants. Mais bon, c'est normal, on est dans une phase de reprise. Qu'est-ce qui dans tout cela est suffisamment solide à 20 ans? Personnellement, j'ai du mal à le dire. J'espère qu'on ne va pas vers une bulle. Mais il y a une certaine sérénité et confiance par rapport à l'élément déclencheur de tout cela, qui est un virus, finalement, une pandémie, qui semblerait quand même petit à petit avoir des niveaux de gravité de plus en plus faibles. Et donc, cela pourrait signifier une fin progressive quand même de la pandémie, comme le disent certains spécialistes. Donc, je dirais plutôt sérénité, mais attention quand même à ce niveau de dette. Voilà, le quoi qu'il en coûte sera toujours là, mais... attention, et puis, comme vous l'avez très bien dit, rien sur le pouvoir d'achat quand même, il y a quand même des soucis aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur l'économie réelle. Il y a des inégalités, comme vous l'avez aussi souligné.
On va en parler justement. On va faire réagir, il ne va pas le prendre mal, celui dont je pense qu'il est le plus libéral de vous trois, Nicolas Orsois. Est-ce que, quand vous voyez les chiffres, le CAC 40 qui a augmenté de 25% en un an, notre ami Pascal Delima parlait du pouvoir oui. d'achat, le pouvoir d'achat des Français, il n'a pas augmenté de 25% en 2021. Ça, c'est sûr et certain.
Oui, Philippe David, moi je suis très clair, il y a une bulle. Je crois qu'il faut être honnête, il y a une bulle. Pourquoi ? Parce que la Bourse de Paris, pour avoir été sur les marchés pendant assez longtemps, pendant que j'étais d'ailleurs toujours enseignant à Dauphine, mais la Bourse de Paris suit la Bourse de New York. C'est-à-dire que vous avez en gros deux séances à Paris. Vous avez le matin et l'après-midi à 14h30, 15h, 15h30, selon le décalage horaire. Vous avez New York qui ouvre. Et Paris se cale sur New York. Alors évidemment, quand New York monte, parce que vous avez Google, enfin maintenant on dit Alphabet qui est coté, hein. Oui. Quand vous avez Apple, quand vous avez tous ces grands noms de la côte américaine qui montent, bah évidemment Paris monte. Mais il faut pas confondre les 10 premières entreprises mondiales technologiques avec les 700 000 entreprises françaises qui souffrent ou qui vont bien, mais c'est pas la même chose. Donc effectivement, il y a une bulle. Moi, je pense que, en plus, on arrive à la fin de l'année, donc tout le monde sait très bien chez les professionnels qu'on tire l'indice vers le haut parce que ça active des bons résultats, ça peut même activer des bonus. Enfin, tout le monde est acheteur et ça monte. Mais je pense très honnêtement, indépendamment du coronavirus, qu'on aura une correction baissière probablement au début de l'année prochaine. Le déploiement d'Omicron sur le territoire européen de manière très forte. Et évidemment, on va avoir une baisse. En tout cas, je ne dis pas que je souhaite cette baisse, parce qu'une baisse, c'est des moins-values potentielles, ça ne fait jamais plaisir aux financiers. Mais évidemment qu'il y a une bulle. Évidemment qu'on ne peut pas réduire l'économie française à Apple, à Alphabet et à Tesla. Je veux dire, 1300 milliards de capi boursière pour Tesla. Je veux dire, c'est quelque chose qui… Très honnêtement, c'est
surréaliste. Alors justement, vous avez dit que ce n'était pas raisonnable. Didier Testo, moi, il y a deux chiffres en préparant l'émission, notamment avec Marilyn, qui m'ont paru fous. Plus 450 milliards de dollars levés sur les marchés mondiaux et 12 100 milliards de dollars en vente d'actions. C'est fou. Émission de titres de créances, en bon français, des obligations ou contraction de nouveaux prêts. Est-ce que ce n'est pas des chiffres délirants, Didier Testo ? Parce que les obligations, c'est des reconnaissances de dette, et les contractions de nouveaux prêts, c'est aussi de la dette.
Oui, mais justement, ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui sur ces indices au plus haut, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays du monde, en France, c'est lié tout d'abord à la politique monétaire qui a été lancée il y a quelques années par la Réserve fédérale américaine, suivie par la Banque centrale européenne, à savoir une politique monétaire de taux d'intérêt bas. Alors, c'était bien entendu, la crise Covid a amené à une réaction de ces banques centrales qui ont fait en sorte que les taux d'intérêt
restent en bas. Les taux d'intérêt bas, ça a commencé dès 2008 avec la crise des subprimes. Hein.
Exactement, mais là, on peut dire qu'on a rajouté, elles ont rajouté une couche, mais cette couche, elle est énorme parce que là, ça a été effectivement le fameux quoi qu'il en coûte, mais ça a été le cas pour toutes ces banquiers centraux. Quand vous regardez la dette américaine, la dette publique, on va dire presque toutes les semaines, les démocrates et républicains sont obligés d'augmenter le plafond. Donc, on vit dans ce monde de dette complètement dingue. Mais ce qu'on a vécu sur la bourse, c'était pour que les investisseurs prennent des risques. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont été prendre des risques. Vous avez parlé de ces flux sur les actions. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'il y a des SPAC, des introductions en bourse de nouvelles formes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pareil, ce sont des milliards de dollars qui ont été lancés. Il y a ces valeurs technologiques, bien entendu, mais ces flux financiers sont très importants parce qu'en fait, tant que les taux restent bas, et ça sera peut-être une des questions de 2022 si les taux ont commencé à remonter, mais est-ce qu'ils vont véritablement remonter avec cette montagne de dettes publiques et privées? On parlait des entreprises qui ont aussi beaucoup de dettes, et si c'est pas le cas, et si les taux restent bas, eh bien, les investisseurs devront toujours prendre des risques, et les risques, ça sera les actions.
Philippe David.
Oui, on vous écoute, Nicolas Orsoy, oui. Après, de la parole à Pascal de Lima. Les taux, vous voyez, c'est bien, vous avez tous des mots, vous faites mon conducteur, c'est parfait. Les taux, s'ils repartent à la hausse, il y a un paquet d'États qui vont se retrouver en faillite, non, Nicolas Orsoy, et après, même question à Pascal de Lima.
Alors, en faillite, je ne sais pas, mais en difficulté probable. Faut oublier que
c'est un euphémisme.
La charge de la dette, effectivement, est considérable. Elle était traditionnellement à peu près égale à ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Donc, effectivement, il y aura probablement des difficultés. Je voudrais juste ajouter un élément important sur, par exemple, Tesla. Il faut savoir, les auditeurs doivent savoir que Tesla vaut à peu près aujourd'hui 350 années de bénéfices Tesla. C'est ce qu'on appelle le PE ratio, le PER pour les auditeurs qui veulent apprendre l'économie en écoutant Sud Radio. Le price earning ratio, c'est le nombre d'années qu'il faut payer aujourd'hui en achetant la société en termes de bénéfices annuels. Donc, il faudra 353 années de bénéfices actuels pour justement récupérer sa mise sans même avoir rien gagné.
C'est délirant.
C'est absolument délirant. Donc, c'est ça la bulle. Hein. On dit toujours qu'un niveau de PER normal, c'est autour de 15-20 pour une entreprise normale. Quoi.
Voilà. Les PER, les plans d'épargne retraite, ce n'est pas le même ratio, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Pascal de Lima, sur les taux, est-ce qu'on ne risque pas des faillites d'État? Parce que tout le monde dit qu'il faut surtout avoir la politique de taux qui ne bouge pas des banques centrales, la BCE en ce qui nous concerne. Sinon, la dette n'est plus soutenable pour certains États. Alors, la Grèce, on en a déjà parlé, l'Italie et même la France.
Mais les pays que vous citez, en fait, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de bulle. Maintenant, il faut aussi donner quelques dates et quelques précisions. C'est quand que ça va éclater? Parce que on reproche beaucoup aux économistes, et puis moi le premier, hein, c'est d'observer les choses quand elles se sont déroulées et d'assez peu les anticiper. Alors, c'est quand que ça va éclater? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette question des bulles qui est tout à fait possible. On est encore sur des niveaux de croissance et de reprise économique extrêmement élevés en relation à la charge de la dette. Donc, on va dire, c'est soutenable, quoi. La dette est soutenable, finalement, d'une certaine façon. Mais attention, parce qu'il y a un moment donné, quand on aura repris un train de croissance, je dirais, normal et raisonnable, comme ce qu'on a vécu en période de croissance molle, d'ailleurs, depuis une trentaine d'années, même, d'ailleurs, il y a effectivement cette question où la taux de croissance va baisser par rapport à la charge de la dette, et là, on va se retrouver avec une bulle, en fait, qui risque tout à fait d'éclater. Et pourquoi pas une nouvelle bulle qui risque d'éclater sur les valeurs technologiques quand on va se rendre compte en face qu'il y aura encore des gilets jaunes, qu'il y aura encore des crises sociales, qu'il n'y aura pas de répartition du pouvoir d'achat, qu'il n'y aura pas… Bon, donc là, il y a un risque, je dirais, de faillite, peut-être pas exagéré, la France est quand même encore bien notée hein, sur les marchés financiers, mais en tout cas, de vraies turbulences pour les grands pays. Deuxièmement, et ça c'est essentiel, et c'est lié à cette question aussi, c'est que quand les marchés vont bien, finalement, on a du mal à voir ce qui se passe dans la vie concrète des gens, si vous voulez. Quand les marchés vont mal, on a des plans de licenciement partout. Donc, il y a aussi une remise en cause totale de cette idée qu'on peut avoir de l'économie et d'aller vers un monde nouveau où les gens pensent différemment l'économie pour qu'enfin, je dirais, l'économie soit au service. Alors, c'est pas un vœu pieux, mais je veux dire, franchement, aujourd'hui, on est en période de quête de sens et les gens demandent à ce qu'on pense autrement l'économie que par le biais uniquement de bulles, de dettes, d'actifs financiers, de monde financier qui n'est pas mutualisant, mais qui au contraire est sélectif et qui finalement fait plomber une économie réelle.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h18. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce débat passionnant en compagnie de Didier Testo, Pascal Delima et Nicolas Orsois. Et vous êtes pour le moment, sur notre question, hausse record de la bourse, la crise profite-t-elle seulement aux riches ? 94,5% à dire oui.
A tout de suite, 9h18 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marie-Line Hérault.
9h20 sur Sud Radio, restez avec nous à suivre jusqu'à 10h. On va faire gagner un beau cadeau pour nos auditeurs. Une bûche d'exception de notre chef Brandon Dehan. Donc restez bien avec nous, c'est avant 10h sur Sud Radio. Et tout de suite, on continue les grands débats du matin. Toujours vos appels 0826 300 300 pour débattre. Sur ce thème, la crise sanitaire ne profite-t-elle qu'aux riches vu les records des hausses boursières? On se pose la question ce matin avec nos invités Didier Testo, Pascal Delima et Nicolas Orsois.
Tiens, une question qui est envoyée à nos invités de René de Toulouse. Je vous fais réagir tous les trois. Quels sont les freins à la création d'un grand fonds souverain national français? On pense notamment pour un beaucoup plus petit pays en Europe, le fonds souverain norvégien qui a quand même de bons résultats. Didier Testo, qu'est-ce que vous répondez à René?
Alors, j'ai presque envie de lui dire qu'il existe déjà depuis quelques années. De mon temps, il y a 32 ans, c'était la Caisse des dépôts.
Oui, la Caisse des dépôts et consignations.
Et oui, mais c'est elle qui avait 4% des valeurs du CAC 40, de telle ou telle, qui était à peu près dans toutes les grandes valeurs, hein, pour simplifier. Alors aujourd'hui, elle a été, on a plutôt la BPI qui s'occupe des startups, mais la BPI est aussi présente, effectivement, dans un certain nombre de sociétés. Mais c'est un vrai sujet, et il a raison de le mentionner, puisque aujourd'hui, on le voit bien avec cette transformation numérique qu'on est en train de vivre, avec les sujets de cybersécurité, avec les sujets de défense, de souveraineté numérique, eh bien, un fonds souverain aurait tout, effectivement, son importance dans la mesure, mais il ne faudrait pas forcément qu'il soit d'ailleurs fait par l'État, parce que l'État s'est quand même pas mal trompé au cours des dernières années. Il faudrait peut-être aussi que les acteurs privés puissent apporter leur pierre à l'édifice pour, dans certains secteurs, effectivement accélérer. Je prends le cas de la cybersécurité. Il y a des villes qui aujourd'hui sont cyberattaquées tous les jours.
Ah oui.
Ça paraît hallucinant. Des hôpitaux. Donc, il faut réagir là-dessus, mais ce n'est pas dans 10 ans. C'est aujourd'hui. Il faut mettre de l'argent au bon endroit avec les bonnes entreprises. Donc, il a raison de poser la question. La Norvège le fait parce qu'elle a, c'est un fonds pétrolier. D'autres États le font parce qu'effectivement, elle se diversifie par ce biais-là. Mais ça peut aussi permettre de donner de la profondeur par rapport à la bourse qui est dans l'immédiateté, de permettre d'investir dans la durée.
On va faire réagir le keynésien de la bande, Pascal Delima, un fonds souverain français. Ça vous inspire quoi? Il y a le keynésien et le libéral après Didier Testo, c'est bien.
Non, mais bien sûr. Bien sûr, on n'a pas tellement l'habitude en France de faire un peu ce qu'on appelle les pays du Nord et d'ailleurs même les pays anglo-saxons, à savoir de rationaliser un peu les dépenses budgétaires, de savoir où ça va, combien ça rapporte, sur quel délai. Enfin, il y a une tradition en France qui est malheureusement pas très globalisante et pas très ciblée et je dirais presque pas toujours très rationnelle sur la philosophie de la dépense publique. Mais bon, disons qu'en tout cas, sur le principe même théorique, bien sûr que oui, la question qui se pose, c'est, je crois que c'était un projet aussi qui devait se faire au niveau européen, c'est-à-dire que lorsqu'on a pendant très longtemps parlé de mutualisation de dette et de mutualisation des déficits, enfin d'une certaine façon d'avoir un budget commun, il était aussi question d'avoir, je dirais, un sorte de fonds souverains, même s'il n'y a pas de fédération politique en Europe, mais de fonds souverains européens, puisque les États étant totalement interdépendants, il est évident que la question se posait aussi au niveau européen. Je précise, alors, idée un petit peu en bullet point, comme on le dit, hein, dans le monde du Conseil, qu'il y a les 30 milliards aussi d'Emmanuel Macron, hein, qui sont pour le coup, qui n'est pas fonds souverain du tout, mais qui en tout cas sont des investissements sur les nouvelles technologies et sur le monde de demain.
Vous êtes d'accord avec ça, le libéral de la bande, on continue Nicolas Orsois, ouais, un fonds souverain français.
Oui, moi je suis, alors attention, je ne suis pas aussi libéral qu'on peut l'entendre, non, en fait je suis pas mal de sujets.
Vous n'êtes quand même pas un économiste marxiste, permettez-moi de vous le dire, pour bien vous connaître.
Non, Peut-être pas, mais Karl Marx a dit des choses très intéressantes, sur la baisse tendancielle du taux de profit, l'exploitation d'une partie de l'humanité par l'autre partie de l'humanité. Ça, je pense que Karl Marx avait raison. Et sur la question du fonds souverain, historiquement, un fonds souverain, c'est effectivement un fonds d'État qui investit des excédents, qui sont soit des excédents commerciaux, par exemple les fonds souverains chinois, parce qu'aujourd'hui, il y en a trois,
oui.
Et les fonds souverains qui sont liés aux exportations de produits pétroliers. Donc, en réalité, oui, un fonds souverain, au départ, c'est un pays qui est excédentaire, c'est-à-dire qui en pratique n'a pratiquement pas de dette. Est-ce que vous avez déjà vu des obligations norvégiennes circuler? Non, il n'y en a pas, parce que la Norvège n'est pratiquement pas endettée. Le problème du trésor public norvégien à la fin de chaque année, c'est de se dire, voilà, on a tant de milliards en excédent, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils achètent des biens pour, par exemple, l'Orchestre National de Norvège va avoir des instruments de musique payés par l'État, qui sont des très, très bons instruments de musique, par exemple. Vous voyez, c'est un pays où il y a l'opulence absolue. Oui. Or, effectivement, ce n'est pas tout à fait le cas en France. Donc, moi, je veux bien qu'on crée un fonds d'État, un fonds souverain par de l'emprunt, parce qu'on peut toujours lever des capitaux, on peut lever 100 milliards et dire on a un fonds souverain. Bien sûr, on se fera plaisir, mais ça sera un fonds souverain qui sera assis sur de la dette, alors qu'un vrai fonds souverain est un fonds souverain qui est assis sur des excédents réels, si vous voulez. C'est-à-dire, pour la Norvège, c'est effectivement le pétrole et l'exportation des saumons. Voilà.
Donc, alors, oui. Oui, justement, vous avez parlé de la Chine, Nicolas Orsois. Vous avez fait voyager aux États-Unis et maintenant en Chine. Je vais revenir vers Didier Testot. Vous avez tous dit qu'il y avait une bulle qui risquait d'exploser. Il y en a une dont on parlait, mais dont on ne parle plus. Alors, il faut dire que le Covid mobilise l'actualité. C'est certaine, la bulle immobilière chinoise et les risques de faillite de grosses boîtes type Evergrande. Est-ce que le problème ne risquerait pas de venir de là en 2022, Didier Testot?
Alors, ça peut faire partie des sujets d'inquiétude, mais en réalité, ce qui s'est passé, et c'est pour ça que les investisseurs, globalement, hein, quand on lit ici et là leurs commentaires, ils sont assez rassurés parce que tout simplement, la Banque centrale, le Parti communiste chinois et la Banque centrale chinoise ont remis de l'argent dans le système. Et donc, pour faire en sorte que cette faillite, si elle n'est pas tout à fait exactement écrite en ce moment, mais on n'est pas loin de la faillite, ou s'il y a eu un certain nombre de paiements qui n'ont pas été faits, eh bien, ça se règle entre Chinois, on va dire, pour faire simple, hein, l'immobilier chinois, cette bulle, les appartements vides, les villes vides restent là. Mais donc pour l'instant, il n'y a pas eu de risque parce qu'il n'y a pas de contagion, il n'y a pas suffisamment d'acteurs étrangers qui ont eu de la dette de ce type d'entreprise. Par contre, il y a un vrai sujet sur lequel les investisseurs peuvent se poser des questions pour 2022, c'est le sujet de l'inflation parce que ça fait l'inflation, on en parle, hein, on en parle en France avec les prix de l'énergie, avec les prix du gaz qui explosent en Europe, on pourra en faire un autre débat là-dessus, c'est effarant ce qui est en train de se passer, mais là, il y a un vrai sujet pour les banques centrales parce que est-ce que la Banque centrale américaine ne court pas après cette inflation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'est pas en retard dans sa montée de taux d'intérêt? Et là, ça pourrait être une des peurs, effectivement, de 2022. Si elle est en retard, elle va corriger et les investisseurs pourraient prendre peur.
Justement, Pascal de Lima, l'inflation sur une tendance annuelle aux États-Unis est à 6,8%, l'équivalent de 1982. 1982, vous allez me reprendre, vous qui êtes docteur en économie, c'était à peu près la fin de la période de stagflation, non? Mais on était au double, à 14%. Est-ce que ça fait
pas
peur?
Fin de période de stagflation. Oui, absolument. Fin de période de stagflation. Alors après, une période d'inflation, ce n'est pas négatif en soi. Hein. Ça permet aussi de réduire le stock de dette hein, du fait de l'abaissement des taux d'intérêt réels. Et donc, il y a un aspect positif sur le stock de dette. C'est plus négatif, on va dire, pour simplifier, sur la question de l'épargne, bien évidemment. Mais ça signifie aussi qu'une consommation repart. Ça signifie aussi que ça chauffe un peu et c'est pas négatif dans une économie qui a des périodes d'emballement. Et je dirais qu'aujourd'hui aux États-Unis ça s'emballe aussi. On les voit sur les indicateurs du climat des affaires. On voit aussi sur les indicateurs de l'emploi. Il y a un emballement. Il y a forcément un moment donné où ça va resserrer. Bref, un stop and go classique qu'on connaît. Attention à ce que l'Europe ne soit pas trop en retard aussi là-dessus. Et je pense que l'ultra liquidité a aussi ses limites lorsque l'on a des risques de bulles, comme nous l'avons dit, et des risques, je dirais, de downgrading, de rating, enfin de taux de notes de nos pays, de la France en particulier sur les marchés obligataires. Donc attention à tout cela. Il y a déjà des mesures sur le crédit en Europe quand même pour freiner un tout petit peu le crédit, notamment sur des réglementations liées à la charge d'endettement au niveau des ménages. Mais bon, voilà, donc ce sont des mouvements normaux de l'économie. Je précise qu'il faut surtout que l'Europe s'ajuste rapidement par rapport aux États-Unis, sinon elle risque d'être un peu mise à l'écart encore une nouvelle fois. Il faut savoir que les seuls capables de combattre aujourd'hui, combattre économiquement, naturellement, la Chine, ce sont encore les États-Unis. Donc il va falloir qu'on ait une position beaucoup plus claire et plus rapide quand même sur notre rôle économique qu'on a dans le monde. La Chine est déjà sur la 5G absolument partout, sur l'intelligence artificielle, n'en parlons même pas, la blockchain, n'en parlons même pas. Enfin, voilà, on est en train de petit à petit de perdre certains combats. Moi, je suis aussi un petit peu inquiet de ce côté-là.
Nicolas Orsois veut réagir.
Oui, je voulais juste un mot sur la question de la bulle immobilière. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les banques françaises financent sur des durées trop courtes. Et c'est ce qui explique le fait que les loyers soient très forts. Parce qu'un propriétaire est obligé de s'endetter pas plus de 20 ans. Donc, quand vous payez des remboursements sur 20 ans, évidemment, que quand vous louez votre bien, vous êtes obligé de louer plus cher. Si vous empruntez, par exemple, en Allemagne, on fait des emprunts immobiliers sur 40 ans et ça pose des problèmes à personne. Et la Banque centrale allemande n'engueule pas les banques allemandes commerciales qui prêtent sur 40 ans.
Et il n'y a aucune ville en Allemagne. Problème. Et il n'y a aucune ville en Allemagne aussi chère que Paris.
Voilà. Donc, en fait, la cherté, si vous voulez, des loyers est due à la durée de financement des banques qui financent sur des durées trop courtes. Et la question du risque n'a aucun sens parce que quand on n'a pas confiance sur 20 ans, il n'y a pas de raison qu'on ait plus ou moins confiance sur 30. La probabilité de défaut dans les 10 dernières années n'est pas plus forte que dans les 10 premières. Et on n'a aucune visibilité sur ce qui se passera entre 25 et 45 ans. Donc, ça n'a aucun sens de prêter sur des durées trop courtes. Et là, il y a un vrai dogme qu'il faut combattre. Et il faut revenir, il faut plutôt aller sur des durées réelles qui correspondent à la durée réelle de l'actif.
Mais vous avez des pays où vous en prêtez à 50 ans, comme le Royaume-Uni ou les USA.
Bien entendu. Et c'est pas pour ça que les loyers, du coup, sont plus abordables dans des pays comme l'Allemagne où les durées d'emprunt sont plus longues. Donc là, il y a un vrai souci. Également, juste pour terminer, la Chine, je rappelle que l'indice China A50 valait 22 000 points il n'y a pas très longtemps. Il est maintenant à 15 000. Donc, il y a déjà une décroissance de la valeur de la bourse chinoise. Alors que tous les autres sont au plus haut. Donc, peut-être que ça serait un leading indicator, comme on dit, c'est un indicateur avancé de la baisse qui pourrait arriver plus tard.
Alors, messieurs, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Je vais vous demander de faire de la prospective à tous les trois, donc assez court. On a battu un record en fin 2021 du CAC 40 et des pas mal de bourses dans le monde. Ce sera quoi fin 2022, Didier Testo?
Alors ça c'est l'exercice impossible parce que je vais vous dire, pour avoir vécu plusieurs crises, ce sont jamais ceux qui effectivement les ont annoncées ou on les a écrites qui c'est pas forcément qu'on gagnait. Alors vous parliez de la crise des subprimes, Philippe. Nouriel Roubini, lui, qui était un économiste à l'époque, oui, qui avait annoncé cette crise des subprimes, n'était pas du tout entendu par la plupart des investisseurs.
Tout le monde disait qu'il racontait n'importe quoi. C'est vrai.
Exactement. Et c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des milliardaires américains qui ont dit que la période que nous traversions était complètement folle, mais pour autant ça continue et ça va encore plus haut. Donc, c'est très difficile à dire et je pense qu'il n'y a pas de… C'est ça qui est intéressant, façon de parler, parce qu'il y en a qui vont peut-être perdre de l'argent, mais dans les crises, personne n'est capable de produire. Alors, par contre, quand ça arrive, ça peut être très violent si effectivement ça n'a été pas anticipé.
Bon, Didier Testo ne se mouille pas. Pascal Delima, où en sera la bourse dans un an?
Alors oui, ouais, je suis complètement Jérémy Rifkin, hein, j'y crois beaucoup à ce qu'il dit, Jérémy Rifkin, hein, sur l'anticipation des niveaux de croissance et les problèmes qui va se poser dans les 5-10 prochaines années, à savoir qu'on va avoir un cycle d'offres extrêmement puissant avec des politiques publiques structurées autour d'un cycle d'offres, mais en face, quid de la demande et du pouvoir d'achat. Et donc, pour moi, modestement, hein, les crises sociales sont toujours d'actualité. Si on ne résout pas ce problème, ce mixte offre et demande, avec en plus la technologie, évidemment, qui va jouer sur le chômage technologique, il y aura des nouveaux emplois, bien évidemment, il y aura des emplois qui vont s'enrichir, mais la masse d'emplois, quand même, est aujourd'hui menacée par l'automatisation, et donc il faut former, qualifier, apporter du pouvoir d'achat, penser au monde de demain tout de suite et pas dans 10 ans, quoi, sinon on va rater un certain nombre de courses encore.
Et voilà. Donc, vous ne faites pas non plus trop de pronostics.
Oui, moi, je vais faire un pronostic.
Oui, allez-y.
Alors, le mot de la fin, parce qu'on arrive au bout. Donc, pour le moment, les deux premiers ne se mouillent pas. Nicolas Orsois, comment voyez-vous la bourse dans un an?
Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je pense très sincèrement qu'il faudrait que la bourse redescende un peu. Je verrais bien le CAC 40 redescendre autour des 5500 points et finir l'année prochaine à 6000. C'était redescendre vraiment. Et surtout, je voudrais terminer en disant que tous ces milliards dont on parle, c'est très bien, Mais j'aimerais qu'il y ait aussi un peu plus de milliards qui arrivent sur l'hôpital français. Ça serait quand même très beau aussi, ça.
Vraie remarque. Merci beaucoup à tous les trois. Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Pascal Delima, chef économiste et directeur innovation et métier de demain chez Harwell Management. Et Nicolas Orsoy, docteur en sciences économiques. Donc, pour les pronostics, on va demander à notre émission de voyance, Trina Magdine, voilà, Alexandre Delovan, sur le CAC 40.
Et y a Violettino,
excellente idée.
Il y a Violettino qui est un de nos auditeurs et qui pose une question. Si on avait affaire à une véritable pandémie mondiale, la bourse ne serait-elle pas au plus bas? Ça, c'est un autre sujet.
Bon, ça fera un très bon sujet de philo et d'économie qui mixera. Merci beaucoup.
Merci
à tous
infiniment.
Les trois et bonne fête.
À tout de suite dans les événements qui ont marqué 2021. C'est Adeline Divot qui reviendra sur ce séisme en Haïti. Restez avec nous, il est 9h34 sur Sud Radio.